les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Jean-François Hamel. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Donc Jean-François, vous êtes professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et vous avez publié un livre, Les feuilles de l'après-mai, une histoire littéraire du gauchisme. C'est paru aux éditions Amsterdam. Alors tout d'abord, moi, ma première question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce qu'un professeur québécois se retrouve à travailler sur une histoire, une approche littéraire de la presse indépendante française du début des années 70.
Je suis d'abord historien de la littérature française par formation. Et depuis déjà plusieurs décennies, les historiens de la littérature se penchent, surtout pour le 19e siècle, sur les corpus de presse. Et au 19e siècle, ça s'explique facilement. Les grands écrivains ont écrit des romans feuilletons, ont publié dans la presse, et le journalisme n'étant pas professionnalisé à l'époque, plusieurs des journalistes étaient aussi des écrivains en devenir, ou des prétendants écrivains. Et donc, au 19e siècle, on s'est beaucoup penché sur les rapports entre presse et littérature. C'est cependant beaucoup moins fréquent pour l'étude du 20e siècle. J'y suis venu, moi, parce que je m'intéresse depuis longtemps au rapport entre littérature et politique, c'est-à-dire à la capacité de la littérature à agir et à faire agir. C'est la question, en somme, de la littérature engagée. Et je me suis penché il y a quelques années sur l'engagement de Maurice Blanchot, un écrivain, un critique, un romancier, qui, à 60 ans, s'est engagé en mai 68 auprès des étudiants et des grévistes et qui s'est mis à publier des tracts anonymement, qui a créé avec des amis, dont Marguerite Duras, un comité d'action étudiants-écrivains. Et ensemble, ils ont produit un bulletin. Et dans ce bulletin, il y a un texte qui, pour moi, a été un véritable choc. C'est un texte où Blanchot, mais anonymement, dit, en somme, depuis mai 68, et tant que nous resterons dans l'esprit de mai, il n'y aura plus de livres et il n'y aura plus de littérature. Et son texte s'appelle « Tract, affiche, bulletin ». Donc, il se tourne vers les écritures militantes. Il se tourne notamment vers la presse militante, comme si celle-ci devait se substituer à la littérature dans un moment insurrectionnel. Et je me suis posé une question très simple. Qu'est-ce qu'un écrivain peut voir dans la presse militante que nous n'avons pas l'habitude de voir? Qu'est-ce qu'il peut y lire? Qu'est-ce qu'il peut déchiffrer là? Et j'ai commencé à lire ce que Blanchot et ses amis, Duras, Mascolo et d'autres, lisaient en mai-juin 68. Et peu à peu, ce qui est bien connu, je me suis aperçu que la presse de l'époque, la presse du quartier latin, comme on le disait à l'époque, se prolonge bien au-delà du soulèvement de mai, au moins jusqu'au milieu des années 70, et qu'il y a là une effervescence médiatique, une multiplication des journaux militants, et que ces journaux militants, ben, ils ont une inventivité d'écriture tout à fait exceptionnelle. Et je me suis donc proposé de jeter un regard littéraire sur ce corpus qui n'est pas littéraire, sur ces écritures de presse, précisément pour faire saillir cette inventivité, pour essayer de reconstituer la dynamique des formes, la créativité en termes de genre, de rubrique. En gros, comment les militants écrivent à cette époque dans la presse gauchiste et surtout quelles sont leurs inventions et à quels impératifs politiques ces inventions correspondent-elles. Donc, je me suis saisi de l'histoire littéraire, de ses outils, de ses moyens pour aborder un corpus médiatique et en montrer la créativité. C'était une des grandes revendications de mai 68. La créativité est généralisée. tous et toutes sont créatifs, créatives. Alors, j'ai essayé de me saisir de cette injonction et de la vérifier en lisant ces journaux, ces feuilles, ces bulletins.
Et donc, vous faites un lien entre la presse qui est apparue justement pendant mai 68 et ce développement de cette presse qui a eu, comme vous dites, jusqu'au milieu des années 70, qui petit à petit a périclité. Et pour vous, il y a un mélange des genres, entre guillemets, entre ce qu'on retrouve comme slogan, comme graffiti sur les murs et ce qu'on retrouve également dans cette presse avec, entre autres, des journaux comme Tout ou La Cause du Peuple. Et donc, c'est l'écrit qui sort du journal, qui s'affiche, mais qui fait aussi un mouvement inverse et qui revient vers les journaux?
Tout à fait. Évidemment, quand on pense aux médias, quand on pense à la presse, on pense d'ordinaire, surtout quand on est dans le domaine de la communication, à ce qu'on appelle l'espace public. Donc, à cet espace virtuel où circulent les écrits, les textes, les images, aujourd'hui sur de nouveaux supports, des supports numériques. Mais à l'époque, en effet, l'espace public de la Ve République, il est bien établi, il est très structuré, mais il laisse assez peu de place aux revendications radicales de cette jeunesse qui se forme à la vie politique en mai. Et ces journaux visent au fond de la cause du peuple à Tout et même jusqu'à Libération à constituer ce qu'on peut appeler un espace public oppositionnel, un autre espace public qui serait en rupture avec ce qu'on appelle à l'époque l'espace public bourgeois, donc avec au fond le monde médiatique régi par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Et un des éléments centraux de cet imaginaire d'un espace public oppositionnel, c'est le rapport fondamental à la voie publique, c'est-à-dire à la rue. Les gauchistes veulent rester au plus près du lieu de l'action collective, du lieu des manifestations, du lieu des émeutes, même du lieu des barricades. Et ils conçoivent leurs écritures dans un rapport très étroit à la rue. Ça se traduit de différentes façons. Ça se traduit bien sûr par des pratiques de diffusion et de distribution. Hein. On vend les journaux sur les places des marchés, devant les usines, aux portes des métros. Mais c'est aussi plus largement une volonté de documenter le monde social. On trouve dans ces journaux des transcriptions de graffitis, des reproductions d'affiches, toute une série d'écritures exposées qui existent sur la voie publique et qui se trouvent, pour ainsi dire, aspirées par cette presse gauchiste. Et puis, à l'inverse, cette presse gauchiste, elle propose aussi des mots d'ordre. Elle propose aussi des slogans qui vont, par les militants, les militantes, être diffusés sur la voie publique, scandés dans les manifestations, affichés sur les murs. Et donc, il y a cette volonté de produire des écrits qui circulent hors de l'espace public officiel, dans un espace public oppositionnel, où il y a un rapport plus net à l'expérience collective. Parce que l'espace public traditionnel, c'est un espace où, normalement, on lit et on écrit individuellement. On signe dans l'espace public officiel, dominant, bourgeois, on signe les textes dans les journaux. On lit individuellement les journaux dans le confort de son appartement. Mais la presse gauchiste veut produire des écritures collectives, des écritures anonymes, et veulent que ces écritures soient lues collectivement, soient lues en groupe, et donc donnent lieu à des discussions, à des débats, à même à des attroupements. Et donc, on distribue les journaux sur la voie publique aussi pour faire passer la presse d'un régime d'individualité à un régime de collectivité. Il faut que la presse redevienne une expérience collective, à la fois du point de vue de sa production et du point de vue de sa réception. Et donc, la voie publique, c'est je dirais, l'espace utopique que cette presse gauchiste voudrait habiter. Il faudrait que les journaux s'exposent eux-mêmes sur les murs, sur les palissades, à la devanture des usines et circulent comme ça de main en main et non pas à travers toutes les médiations qui sont celles de l'espace public dominant.
C'est une explosion qui est également graphique dans ce que vous appelez l'insubordination graphique.
Tout à fait. L'inventivité de la presse gauchiste, elle est lisible et elle est visible. Elle est lisible parce qu'elle prend des formes, elle s'associe à des genres, elle crée des effets de style, tout ce qui relève de la littérature au sens strict, mais cette inventivité, elle est aussi graphique, elle est visuelle. Peut-être un peu moins dans les premiers journaux du gauchisme qui sont centrés sur l'émancipation ouvrière et qui sont plus près d'une tradition d'extrême gauche, avec une disposition graphique, des maquettes plus traditionnelles. Mais à partir du moment où émergent les journaux de l'autonomie politique, c'est-à-dire les journaux associés au féminisme, associés aux luttes homosexuelles, aux luttes anticarcérales, aux luttes antipsychiatriques, là, tout à coup, il y a en effet une explosion visuelle très étonnante. Ces journaux deviennent extrêmement audacieux du point de vue formel, du point de vue graphique, juxtaposant des caractères d'imprimerie et des écritures manuscrites, inscrivant des dessins, utilisant des papiers colorés. Il y a tout un courant d'ailleurs de mise en page un peu psychédélique qui se développe. C'est très présent dans le journal Tout aussi. Et puis, à la fin de ce moment gauchiste, émergent aussi les journaux qui sont plus directement contre-culturels. On pense évidemment à Actuel, mais il y a d'autres journaux comme Le Parapluie, comme Géronimo, qui, en effet, présente là des couleurs et acidulées, travaille à partir de collages, de montages, s'inscrivant d'une certaine manière aussi dans la continuité des journaux d'avant-garde. Il y a dans le moment contre-culturel du gauchisme toute une reprise de la tradition graphique des avant-gardes. Et donc, ce sont des journaux qui sont extraordinaires à lire, mais qui sont aussi extraordinaires à regarder.
Il y a tout. Il y a également un journal que moi j'ai découvert en Alsace qui s'appelle Vrouch, où on est sur une imagination de la mise en page. Il faut de temps en temps même tourner le journal pour lire un article. L'article est écrit en boucle, en escargot. Donc là, il y a une inventivité qui est forte. Cette inventivité, elle fait également partie justement de ce militantisme de ces années 70. En gros, c'est de casser un petit peu les barrières établies, autant du côté justement mise en page que de cette approche littéraire que vous citez et que, comment dire, ces écritures. Alors, pour moi, j'ai découvert beaucoup de choses en lisant votre livre, entre autres certaines expressions, mais les écritures exposées, les actions d'écriture, des prises d'écriture, on sent qu'il y a une révolution non seulement de l'écrit, mais également de la forme et de la diffusion de ces écrits.
Tout à fait. Il faut se rappeler d'où vient le gauchisme. D'abord, du point de vue lexical, le mot même de gauchisme est d'abord une injure. C'était le Parti communiste depuis les années 20 qui jetait cette injure à celles et ceux qu'il jugeait spontanéistes, aventuristes et donc insuffisamment disciplinés. Alors, on ne se disait pas gauchiste, c'est toujours les autres qu'on taxait de gauchisme. Or, à partir de 68, les militants qui sont hostiles au Parti communiste, les nouveaux militants qui font mai et puis qui vont développer ensuite cette effervescence politique du début des années 70, se revendiquent gauchistes. Ils retournent le stigmate en emblème et veulent rompre avec un certain communisme qu'il juge ossifié, qu'il juge mortifère, qu'il juge autoritaire. Et le slogan qui va s'imposer très rapidement, c'est celui de changer la vie. bien avant que le Parti socialiste en fasse un slogan électoral, les premiers gauchistes veulent changer la vie et non pas seulement transformer les conditions économiques de production. Et changer la vie, pour les gauchistes, ça suppose aussi, comme vous le disiez très justement, de casser les formes, de casser les genres, d'abolir les frontières entre l'espace public et la voie publique, abolir les frontières entre ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Il faut s'opposer à tout prix, à toute forme de monopolisation de l'écriture. Il faut que tout le monde puisse accéder à l'écrit, que tout le monde puisse accéder à l'espace public. Et changer la vie, ça va passer donc par cette idée aussi de changer l'écriture, de changer au fond la représentation et les codes de la représentation politique. Et à partir de là, les journaux vont développer, d'abord de façon relativement modeste, et puis de façon ensuite beaucoup plus excessive, des transformations littéraires, stylistiques, et puis graphiques, visuelles. Un des journaux qui, pour moi, est le plus emblématique des débuts de cette presse, c'est le journal Action. Qui est créé le 7 mai 1968 lors d'une des toutes premières manifestations après les premières émeutes du quartier latin, avant que la grève générale commence. Ce journal, il est créé et il est distribué à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans les manifestations à Paris. Et très rapidement, ce journal va se transformer. C'est une qui était jusque-là remplie de textes comme les feuilles d'extrême-gauche traditionnelles. Ces unes deviennent des affiches qui sont faites pour être brandies sur la voie publique, qui sont faites pour être collées, placardées sur les murs. Et à Action, qui naît en 68 et disparaît en 69, répond plus tard dans cette même séquence, le journal Géranonimo, qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, il a été numérisé, et qui est un journal contre-culturel absolument extraordinaire, qui est un journal illustré, avec des images à découper, des instructions pour que les lecteurs et les lectrices recomposent eux-mêmes le journal à travers tout un travail de montage. On voit par exemple des textes sur la façon de monter un journal, de produire un journal. Donc, dans Géranonimo, c'est une évidence. Ce journal n'existe que pour inciter ses lecteurs et ses lectrices à créer d'autres journaux, à inventer d'autres formes médiatiques. Donc, il y a aussi cette dynamique d'émulation où, peu à peu, de journaux plus proches de l'extrême gauche émerge un véritable laboratoire médiatique et on voit dans chacun de ces journaux presque systématiquement une revue de la presse gauchiste. Alors, ces journaux rendent compte des autres journaux et montrent ainsi la constitution progressive de cet espace oppositionnel où justement il s'agit d'éviter toute forme de cloisonnement entre ceux qui lisent, ceux qui écrivent, entre la voie publique et l'espace public, entre le commun des mortels et la représentation politique.
Sucré rêve d'un... bonne nuit les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis.
Les autres voix de la presse,
c'est la meilleure émission du monde.
Merci, papa.
De papa.
Vous nous parlez aussi beaucoup de réappropriation d'écriture militante, entre autres en citant Monique Wittig, qui a participé donc au mouvement féministe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette approche qui, pour moi, est à peu près claire, mais que j'ai quand même du mal à formuler, le fait qu'elle se réapproprie les écritures militantes, justement, sans toutefois renier les écritures littéraires. Donc, ouais. Si vous pouviez me préciser un petit peu cette approche.
J'aborde ce corpus qui n'est pas littéraire depuis les instruments de l'histoire littéraire. Mais m'est apparu très tôt dans cette recherche que les gauchistes avaient une méfiance très grande à l'endroit des écrivains. Ils jugent, comme ça a souvent été le cas dans l'histoire de l'extrême gauche et de la gauche, que la littérature, comme les arts, c'est une affaire bourgeoise. Mais au-delà de ça, la méfiance des gauchistes à l'égard de la littérature vient du fait que les écritures militantes sont par nature des écritures collectives. Alors que, en régime de modernité, on pense la littérature selon un régime de singularité. On valorise la littérature, on valorise les œuvres pour ce qu'elles ont d'unique, de rare, de styliser, de signer. C'est toute la question de l'effet de signature d'une œuvre. Or, les gauchistes, eux, ne cherchent pas des textes qui portent la marque du singulier, mais au contraire, des textes qui portent la marque du collectif et qui vont générer des effets de collectivité, donc rassembler des communautés, produire des attroupements, créer de la solidarité. Donc, les gauchistes regardent la littérature comme un usage de l'écriture qui, au fond, est sans efficacité politique. Un autre problème pour les gauchistes face à la littérature, c'est que les écrivains revendiquent une autorité sociale, surtout dans un pays comme la France où la littérature est extrêmement valorisée dans l'éducation nationale. Et donc, les gauchistes se veulent anti-autoritaires et questionnent l'autorité même des écrivains. D'où la complexité de la situation des écrivains qui se sentent solidaires des gauchistes. Ils veulent appuyer les gauchistes, ils veulent leur prêter main forte, ils veulent parfois même écrire dans leurs journaux, mais ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font d'habitude et se contenter d'écrire des textes signés, jouant sur leur notoriété du haut de leur capital symbolique, pour parler comme les sociologues, donner des leçons politiques aux lecteurs et aux lectrices. Alors, les écrivains qui veulent publier dans la presse militante de l'après-mai doivent trouver ce que j'appelle des formations de compromis, c'est-à-dire des écritures qui ont une dimension collective et qui ont en même temps une forme de singularité. Et ils doivent au fond négocier entre deux régimes d'écriture, entre deux imaginaires de l'écrit. Et le cas de Monique Wittig est tout à fait représentatif de cette recherche d'une alliance entre écriture militante et écriture littéraire. Wittig, en 64, est reconnue déjà avec son premier roman, Le Poponax, comme l'une des grandes écrivaines du nouveau roman. Elle est reconnue par Marguerite Duras, par Nathalie Sarraute. Elle publie aux éditions de Minuit, qui représente l'avant-garde littéraire à l'époque. Et elle est de les premières manifestations du mouvement de libération des femmes dès le printemps 1970. Et pourtant, Wittig n'écrit pas dans Le Torchon Brûle, le journal du mouvement de libération des femmes, avant 1973. Elle est pourtant très proche de celle qui produisent Le Torchon Brûle. Sa sœur fait les dessins du premier numéro. Certaines de ses amies les plus proches, féministes révolutionnaires, Gwyn Rouge, écrivent aussi dans Le Torchon Brûle. Elle se refuse à le faire précisément parce qu'elle souhaite que d'autres femmes qui n'ont pas l'autorité sociale dont elles disposent puissent aussi s'exprimer, accéder à l'écriture, accéder à l'espace public à travers Le Torchon Brûle. Il faut donner voix à celles qui n'en ont pas. Et Wittig va quand même, en 73, publier un texte, un seul texte dans Le Torchon Brûle, qui est un texte extraordinaire, parce que c'est un texte à la fois très littéraire, très audacieux formellement, qui reprend les codes des avant-gardes de l'époque et qui, en même temps, reprend toute une série de références militantes. Elle va citer des slogans. Elle va reprendre des injures qui sont lancées aux femmes homosexuelles. Elle va inscrire son texte dans tout un imaginaire de la conflictualité politique et de la violence militante. En fait, à ce moment-là, Wittig est en guerre à l'intérieur du MLF contre ce qu'elle va appeler, quelques années plus tard, l'hétérosexualité normative. Et elle accuse les militantes du MLF de stigmatiser les lesbiennes. Et elle va produire un texte qui va constituer, au fond, une autocritique du MLF, une critique du MLF par une de ses membres fondatrices. Et ce texte, il va avoir tout à la fois les signes de la littérature et les signes du militantisme. Et c'est un texte tout à fait unique dans Le Torchon Brûle. Généralement, dans Le Torchon Brûle, on a des témoignages, on a des lettres, des écritures ordinaires. Ce sont des femmes ordinaires qui parlent de la violence ordinaire d'une société patriarcale. Et puis tout à coup, il y a ce texte de Wittig qui apparaît, qui est à la fois un témoignage de la violence faite aux femmes homosexuelles et une revendication de la capacité des écritures littéraires à critiquer le gauchisme, à critiquer le féminisme, à critiquer le militantisme de l'après-midi. Alors, c'est un texte qui est très curieux, mais il y en a d'autres. On en trouve chez Guy Ockenghem, on en trouve chez Julien Blaine. C'est un texte qui invente une forme médiane entre les écritures militantes et les écritures littéraires et qui négocie ce rapport conflictuel entre militantisme et littérature.
C'était Les Autres Voix de la Presse avec Jean-François Hamel à propos de son livre Les Feuilles de l'Après-mai. La discussion avec Monsieur Jean-François Hamel étant tellement intéressante, nous vous proposons la deuxième partie de cet entretien la semaine prochaine. D'ici là,
on va s'interroger ton stylo.